d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. La mobilisation de la classe politique contre l'antisémitisme. Le gouvernement sera largement représenté demain dans le rassemblement parisien auquel ne se joindra pas en revanche le parti de Marine Le Pen. La sortie du film Grâce à Dieu, mercredi, toujours en suspens. Une première décision de justice a débouté le père Prénat, mais une autre est attendue demain. Le procès Air Cocaïne, deux accusés majeurs manquent à l'appel. Les avocats de la défense dénoncent un procès inéquitable et tronqué. Les communes rurales font de l'œil à Airbnb. Puisque les grandes villes ne veulent pas de vous, eh bien, venez chez nous. La maternité de Bernay, dans l'Eure, va bel et bien fermer. La ministre de la Santé pointe des effectifs insuffisants. Les opposants dénoncent une décision économique. Les Lyonnais, prudents mais confiants, à la veille de leur huitième de finale aller de Ligue des Champions demain contre Barcelone, que l'on suivra évidemment en direct sur Europe 1. Demain, qui sera la seule journée perturbée de la semaine, côté météo, retour du ciel bleu, c'est promis pour tout le monde dès mercredi. Et ça ira crescendo jusqu'au week-end. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. À 22h20, comme tous les soirs, vous retrouverez l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Franck Bouettard, le directeur général France d'Ericsson. Europe 1. Et on est donc à la veille d'une grande mobilisation contre l'antisémitisme. Le chef du gouvernement et une vingtaine de ministres participeront demain à 14h à Paris au rassemblement organisé Place de la République. Cela fait suite évidemment aux récents débordements, que ce soit les insultes proférées à l'encontre d'Alain Finkielkraut ou encore les tags antisémites. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne participerait pas à ce rassemblement. Yasmina Katou.
Emmanuel Macron ne sera pas présent, il n'y sera pas car ce n'est pas sa place, explique en substance l'Élysée, qui tient à distinguer la démarche partisane du rassemblement de demain de la démarche institutionnelle qui doit être celle du président de la République. C'est donc le lendemain soir, lors du dîner annuel du CRIF, qu'Emmanuel Macron, accompagné de sa femme, aura l'occasion de s'exprimer sur ce climat de regain d'antisémitisme. Pas sa place donc, même si on se souvient que François Mitterrand avait choisi de se mêler à la grande marche transpartisane organisée en 1990 à Paris après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Pas de président, mais un gouvernement largement représenté avec Édouard Philippe qui a confirmé sa venue en début de soirée avec au moins une vingtaine de ministres présents, dont Jean-Michel Blanquer, Agnès Buzyn ou encore François de Rugy. À leur côté, évidemment, une très large délégation des élus et responsables de La République En Marche, dont le patron Stanislas Guérini.
Les précisions de Yasmina Katou seront présents également demain à ce rassemblement. Les représentants des 14 partis qui appellent à se rassembler, Laurent Wauquiez, Olivier Faure, on y verra aussi François Hollande ou encore Bertrand Delanoë. En revanche, le Rassemblement National n'enverra pas de représentants. Cet après-midi, le parti de Marine Le Pen a annoncé qu'il préférait rendre un hommage séparé aux victimes de l'antisémitisme, comme le confirme Gilbert Collard.
Nous condamnons l'antisémitisme de la façon la plus formelle, la plus intellectuelle et la plus physique. Nous n'irons pas à la manifestation organisée par le festival socialiste. Les contestataires pédestres qui, en panne de reconnaissance, essayent de trouver le moyen de faire parler d'eux parce qu'ils n'ont pas le monopole de la lutte contre l'antisémitisme. On organisera une manifestation qui aura lieu vers 17h30 en un endroit que je ne peux pas indiquer pour des raisons de sécurité, mais qui sera connu demain. Et on trouve triste, voilà, on trouve triste que le Parti Socialiste, qui quand même a eu un rôle très important dans l'instauration du communautarisme intégriste, ça a été dénoncé, ça a été répété, que les communistes qui ont joué un rôle aussi, notamment en célébrant quelques terroristes
en Israël. Ça, c'est une attaque sérieuse.
Soit à l'initiative de cette manifestation.
Gilbert Collard, le député du Rassemblement National, qui était au micro de Sonia Mabrouk, a noté que Marine Le Pen sera, elle, demain l'invitée d'Audrey Crespo-Marat sur Europe 1 à 8h15. Rebondissement ce soir dans les négociations sur l'assurance chômage. Le patronat indique qu'il fera, mercredi, des propositions alternatives au bonus-malus, sujet de blocage avec les syndicats qui avaient demandé à ce qu'il revoie sa copie. Si la négociation échoue entre les partenaires sociaux, l'État reprendra la main. C'est ce qu'a dit le gouvernement. Grâce à Dieu, le film de François Ozon sur l'affaire Prénat qui traite de la pédophilie dans l'église devrait théoriquement sortir sur les écrans mercredi. C'est à mettre encore au conditionnel. Décision du tribunal de Paris qui a rejeté en tout cas la demande des avocats du père Prénat. Ces derniers demandaient le report de cette sortie au nom de la présomption d'innocence. Jean-Luc Boujon, la justice n'a donc pas suivi ces arguments.
Non, le tribunal de Paris a estimé que le film d'Ozon prenait suffisamment de précautions avec ce texte écrit plein écran qui vient rappeler à la toute fin du film que le père Bernard Prenat est présumé innocent dans l'attente de son procès et de son jugement. Cela est suffisant, a estimé le tribunal, qui a donc rejeté le report de la sortie du film, dont les copies ont déjà été envoyées dans 307 salles de cinéma en France. Grande satisfaction donc pour le réalisateur et le producteur du film, mais évidemment déception pour les avocats du père Prenat, qui ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision, ce qui n'empêchera pas la sortie du film, car cet appel ne sera pas examiné tout de suite. En revanche, ce qui pourrait encore empêcher cette sortie, c'est une autre décision de justice qui sera rendue demain, mais à Lyon cette fois. Régine Maire, une proche collaboratrice du cardinal Barbarin, a demandé à ce que son nom ne soit pas cité dans le film en vertu du respect de sa vie privée et de son intimité. Son avocat a exigé que la bande-son soit entièrement refaite avec un nom d'emprunt. Et si la justice lui donne raison demain, bien cela veut dire qu'il faut reprendre tout l'habillage sonore, ce qui peut prendre au moins 3 semaines, et donc ce qui conduirait à repousser de facto la sortie du film. Ce sont donc les juges lyonnais qui vont décider demain à 17h du sort de Grâce à Dieu.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, et notez que François Ozon sera l'invité de Nikos Aliagas demain matin sur Europe 1 à 7h45. Une deuxième plainte déposée contre l'ambassadeur du Vatican à Paris. Un nouveau témoignage pour des faits qui, eux aussi, se seraient déroulés lors de la cérémonie des vœux à l'hôtel de ville. Plainte déposée par un homme de 39 ans qui raconte une main aux fesses très appuyée de la part du nonce apostolique, Monseigneur Luigi Ventura, qui n'a pas encore été entendu car il bénéficie de l'immunité diplomatique. Et puis notez que la plainte pour viol qui visait le comédien Philippe Cobert, cette plainte a été classée sans suite par le parquet.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h07, c'est la suite de votre journal et l'affaire de ce convoyeur de fonds qui avait dérobé un fourgon en région parisienne avant d'être interpellé à Amiens. Près de 2 millions d'euros sont toujours dans la nature. Ce soir, un complice du convoyeur s'est rendu à la police. 62 000 pièces à conviction. C'est une affaire hors norme qui est jugée depuis ce matin à Aix-en-Provence, celle d'Air Cocaïne, affaire rocambolesque, près de 700 kilos de drogue saisis en 2013 en République dominicaine sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana à bord d'un Falcon à destination de Saint-Tropez. 9 personnes sont jugées, dont les 2 pilotes, mais 2 sont absentes, 2 passagers qui n'assistent pas à ce procès qui pourrait être interrompu à tout moment, Stéphane Frangy.
Oui, puisque des avocats de la défense ont demandé de renvoyer le procès en raison de ses absences. L'un de ces 2 acteurs clés, Alain Castagny, qui présentait comme l'apporteur d'affaires, le courtier de ce vol, est gravement blessé à une jambe et il n'est pas en état pour assister à ces audiences. L'autre, le client VIP du vol, Nicolas Pisapia, est toujours sous contrôle judiciaire en République dominicaine où il attend un jugement définitif en cassation. Et ils doivent être tous les 2 jugés à part ultérieurement. Mais c'est ce qui pose problème pour la bonne tenue de ce procès hors norme que le conseil d'un des accusés présents n'hésite pas à qualifier d'avion sans aile, sans possibilité de confrontation, impossible d'examiner le dossier dans les conditions équitables. Voilà ce qui a été plaidé tout à l'heure, argument entendu quelque part par la cour qui coupe la poire en deux et sursoit à statuer, c'est-à-dire que l'instruction continue, témoins et accusés seront bien appelés à la barre, mais la cour se réserve en effet le droit de reporter le procès si d'aventure l'absence des 2 passagers devenait préjudiciable à l'équilibre des débats.
Stéphane Frangy à Aix-en-Provence pour Europe 1. C'est un rapport très attendu. La commission d'enquête sénatoriale rendra après-demain, mercredi, ses conclusions sur l'affaire Benalla. La ministre de la Santé a été fraîchement accueillie ce matin à Bernay, dans l'Eure, où elle a confirmé la fin annoncée de la maternité. Agnès Buzyn justifie cette annonce par le manque de personnel.
Ce n'est pas une fermeture. Il n'y aura plus l'acte d'accouchement. Ça dure 2 jours. Il y aura tout le suivi de grossesse. Beaucoup de maternités aujourd'hui se sont déjà transformées en centres de périnatalité avec absolument pas d'anxiété sur les transports puisque les transports sont anticipés. On programme également des hôtels hospitaliers pour recevoir les femmes 1 ou 2 jours avant l'accouchement. C'est de la restructuration aujourd'hui de l'offre de soins pour apporter à nos concitoyens dans tous les territoires la même qualité de médecine, la même qualité de suivi que s'ils étaient dans un grand centre hospitalier. C'est mon ambition aujourd'hui pour la médecine française.
Des arguments de la ministre de la Santé dont ne veulent pas entendre parler les habitants qui se battent pour le maintien de cette maternité. C'est toute la vie de la commune qui est menacée, d'après Marie-Pierre, venue manifester ce matin.
Nous ne sommes plus des êtres humains en France. On pense à nos enfants, à l'économie de la ville aussi. Et les communes adjacentes, les crèches ont fermé, les écoles ont fermé. Ça va être une ville morte, quoi. Une ville déambulatoire. Il y a des jeunes qui m'ont dit, nous on ne construit pas à Bernay, on n'achète pas à Bernay parce que la maternité va fermer, l'hôpital va partir. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Je suis en colère par ce qui se passe, on prend les gens pour des imbéciles.
Des propos recueillis pour Europe 1 par Hélène Terzian. Un recours contre cette décision doit bientôt être examiné devant la justice administrative. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et quand les maires ruraux se distinguent des grandes villes et accueillent Airbnb à bras ouverts. À tout de suite.
Europe 1.
Un enfant qui naît aujourd'hui a de grandes chances de vivre plus de 100 ans. Alors oui, il va vivre vieux, mais est-ce qu'il va vivre mieux ?
C'est pourquoi nous avons créé Aesio, avec la conviction qu'une mutuelle doit aussi vous aider à vivre mieux et que la meilleure façon d'y arriver, c'est de le faire ensemble. Groupe Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, 25 Place de la Madeleine, Paris 8e. Orias numéro 160 069 68, aesio.fr.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h11. Vous connaissez forcément Airbnb, le géant américain de la location d'appartements ou de maisons, qui, vous le savez, n'est plus le bienvenu dans les grandes villes, à Paris notamment, mais aussi à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, qui dénonce une concurrence déloyale pour les hôteliers. Eh bien, figurez-vous qu'Airbnb est accueilli au contraire à bras ouverts dans les petites communes. L'Association des maires ruraux de France vient d'ailleurs de signer un accord avec la plateforme et son directeur Cédric Zabot s'en est expliqué ce soir sur Europe 1.
20 000 communes de moins de 2 000 habitants n'ont pas d'hôtel. Qu'est-il de commun entre ces communes-là et la ville de Paris ? Un potentiel d'attractivité. Il n'est pas le même, certes. Il n'y a pas d'offre hôtelière, certes. Mais il y a d'autres pratiques. Et aujourd'hui, 60% des Franciliens veulent s'installer à la campagne. Donc beaucoup ne le feront pas. Mais par contre, beaucoup peuvent venir de temps en temps découvrir ces territoires ruraux. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'offre, elle ne se fait pas que par les hôtels, mais aussi, effectivement, et ça c'est pas nouveau, par les gîtes. La nouveauté, c'est que les plateformes numériques comme Airbnb ou dans un autre domaine comme Blablacar viennent bouleverser les représentations et nous apprendre, nous, élus ruraux, que finalement, il y a beaucoup de nos habitants qui ont choisi ce mode-là pour accueillir des personnes.
Cédric Zabot, le directeur de l'Association des maires ruraux de France, qui était l'invité du grand journal de Mathieu Béliard, ce soir sur Europe 1. Les jeunes de 16 ans qui effectueront leur service national universel devront porter un uniforme. Mais quel uniforme ? Un concours vient d'être lancé et ce sont les jeunes eux-mêmes qui vont le dessiner, cet uniforme, en tout cas le haut de la tenue, un t-shirt ou bien un polo. Virginie Salmen, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1 et vous avez accompagné Virginie, aujourd'hui le secrétaire d'État chargé de la jeunesse, qui a lancé ce concours dans un lycée d'Hermont, dans le Val d'Oise. Les jeunes, comment ont-ils réagi, Virginie ?
Pour la plupart, ces élèves n'avaient jamais entendu parler du service national universel, mais quand Gabriel Attal leur a expliqué que 800 000 jeunes chaque année allaient porter cet uniforme, l'enthousiasme est monté petit à petit.
Si demain, un jeune qui a fait son service national, dans sa ville, il se passe un accident grave, une catastrophe naturelle importante, l'idée c'est que tous les jeunes qui auront fait leur service national, ils puissent remettre le polo qu'ils avaient au moment du service national, descendre dans la rue, se reconnaître mutuellement parce qu'ils auront tous été formés sur la réaction à avoir, et puis prendre en charge des personnes qui ont été sinistrées. Donc la tenue, elle va être très importante.
Alice, élève de seconde mode et design, qui ne connaissait pas le service national universel 5 minutes plus tôt, a tout de suite eu plein d'idées.
C'est très beau, des uniformes anglais ou des uniformes français, c'est classe, c'est bleu marine. Mais là, comme c'est des jeunes, on veut que ça change, quoi. On veut rajouter un petit truc, une petite étincelle. On peut prendre un pantalon un peu oversize beige et avec un beau t-shirt, ça le fait vraiment. Vraiment, ça change.
Pour les couleurs de l'uniforme, il va falloir s'accorder. Quelle est la couleur qui symbolise la liberté ou l'égalité ?
Du bleu, flashy, voilà. Moi, je veux pas que ça soit terne.
Moi, ça serait du gris.
Moi, ça serait pas du tout comme lui, ça serait en couleur, pour qu'on nous voit de loin et qu'on sache que c'est nous, quoi.
Il y a un autre point à trancher. Est-ce que ce sera un uniforme fille, un uniforme garçon ou des vêtements unisexes ? Voilà ce qu'ils en pensent.
Un pour les filles, un pour les garçons.
Que ça soit assorti aussi.
Oui, assorti.
Ce serait super.
Moi, je me dis qu'on est égalité, donc les deux sexes, avec le même polo, avec les mêmes habits, il n'y a pas de différence.
Voilà, donc ces jeunes ont un mois pour dessiner la tenue qui sera portée chaque année par les jeunes appelés de 16 ans.
Merci beaucoup Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Le foot, veillée d'armes à Lyon avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Match que vous pourrez suivre demain en direct et en intégralité dès 20h sur Europe 1. Alors Cyril de la Morinerie, dites-nous tout avant de partir à Lyon. Barcelone, c'est un monstre, on pourrait donner les Lyonnais perdants, pourtant ils y croient. Hein.
Oui, les Lyonnais croient réellement en leur chance, alors cela peut paraître surprenant car en face ce sera la bête noire, le Barça que Lyon n'a jamais battu. Mais l'OL a réalisé deux matchs référence. Le premier, c'est en début de saison, en septembre dernier. la surprise générale, l'OL s'impose sur le terrain du champion d'Angleterre, Manchester City, le club entraîné par Pep Guardiola. Deuxième exploit, c'était il y a 15 jours, Lyon bat le PSG après avoir été mené au score. L'ancienne gloire, Juninho, estime d'ailleurs dans le journal Le Progrès que les Lyonnais sont capables de battre le Barça, à condition, dit le Brésilien, de se mettre au niveau mental et physique de ce genre de match. Le problème, c'est que le champion du monde, Nabil Fekir, le maître à jouer de Lyon, sera absent alors que le quintuple ballon d'or Lionel Messi, auteur de 28 buts en 26 matchs, sera présent. L'Argentin, la légende argentine du Barça, sera évidemment la principale menace demain soir.
Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup Cyril Delamorinerie qui sera au Groupama Stadium pour vous faire vivre ce match en direct en intégralité sur Europe 1 dès 20h. Et puis une mauvaise nouvelle du côté de Saint-Etienne. Cette fois, l'attaquant stéphanois Kevin Monet-Paquet, blessé hier lors du match contre le PSG, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sa saison est donc terminée. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Demain, Elena, on ouvre une parenthèse dans notre séquence printanière.
Exactement Isabelle, ce mardi sera le jour le moins sympa de la semaine, c'est vrai, avec une tentative de perturbation vite avortée. L'anticyclone qui se décale vers les Balkans va reprendre du poil de la bête et regonfler ses pressions sur l'ouest de telle façon que la pluie qui est arrivée aujourd'hui sur la Bretagne arrosera de plus en plus faiblement les régions allant de la Gironde au Loiret jusqu'aux Ardennes demain matin. Puis, la perturbation, elle va mourir sur place. Il ne restera que des nuages demain après-midi du Poitou-Charentes à l'Alsace. Des éclaircies timides sur le nord de la Loire et le sud-ouest. Très belle journée en revanche sur les Pyrénées et le sud-est, en dehors des entrées maritimes qui stagneront sur le golfe du Lion ou encore la côte d'Azur. Les températures en légère baisse après la douceur remarquable de ces derniers jours. Quelques gelées sur l'est demain matin, puis 9 degrés à Langres, 11 à Lorient ainsi qu'à Nantes, 12 à Caen, à Quimper, Lille et Paris, 14 à Clermont-Ferrand et Lyon, 15 à Bordeaux, Toulouse et Marseille, 16 degrés la maximale pour Biarritz, Nîmes et Avignon. Demain soir, on ferme la parenthèse nuageuse. Revoilà le soleil et des températures de plus en plus printanières dès mercredi. Quelques records en vue, attention pour la fin de semaine.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Juste avant, l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Franck Bouettard, le directeur général France d'Ericsson. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Alors Wall Street est restée fermée ce lundi, ce qui n'a pas empêché la bourse de Paris de poursuivre sa progression.
Wall Street fermée pour la journée des présidents, effectivement aux États-Unis, mais le CAC 40 a encore gagné 0,3%, 5168 points, même si l'ambiance était très calme. Comme toujours, quand Wall Street est fermé, il ne se passe pas grand-chose. Il y a quelques valeurs quand même qui se sont distinguées. TF1 a rebondi brutalement de 16,8% à 7,88 €. Les analystes ont salué les derniers comptes du groupe TF1 jugés résistants. La Société Générale vise par exemple un cours de 8,50 € sur TF1. Qui termine ce soir donc à 7,88 €. Valourec aussi rebondit de 10%, 1,77 € avec le baril de pétrole qui remonte encore. 56 $ ce soir, le WTI. Et puis les banques grimpent. Société Générale, plus 2,6%. Ça va mieux aussi du côté du Crédit Agricole, plus 2,4%. BNP Paribas, plus 0,7%. Sur les devises, c'est très calme. L'euro reste juste au-dessus des 1,13 face au dollar.
Et alors, on a une exception du jour, c'est le titre EDF qui a encore perdu du terrain.
Encore, moins 2,8%, 13,60 €. Ça baisse de nouveau après des perspectives jugées décevantes. Le résultat d'exploitation est attendu entre 15,3 et 16 milliards d'euros cette année, après 15,3 milliards en 2018. Les défis sont encore nombreux à relever du côté d'EDF, dans le nucléaire ou dans les énergies renouvelables, ce qui entretient les rumeurs de restructuration du groupe EDF, des rumeurs persistantes et qui plombent l'ambiance avec ce titre. Titre en baisse de 2,8% ce soir. Sur les autres places financières, pas beaucoup d'activité. Le DAX parfaitement stable à Francfort. Bruxelles plus 0,7, Madrid plus 0,3, Milan plus 0,6. Le CAC 40 donc en hausse ce soir de 0,3%, 5168 points.
Merci pour ce tour d'horizon Didier Hamot de boursier.com. Et à 22h20, il est temps de retrouver Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le directeur général France d'Ericsson.
Bonsoir Franck Bouettard.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG d'Ericsson France. Ericsson, c'est l'un des grands noms de la téléphonie. Certains se rappellent même peut-être avoir eu des téléphones Ericsson, mais aujourd'hui vous êtes surtout spécialisé dans ce qu'on appelle les réseaux, finalement, dans ce qui nous permet de téléphoner. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est qu'on parle beaucoup de la polémique autour d'un Chinois qui s'appelle Huawei, qui est l'un des géants dans le monde de la téléphonie et notamment dans le monde des réseaux. Et certains nous disent qu'il est certes très fort en termes de technologie, mais que surtout, il nous écoute au point que certains gouvernements ne veulent plus travailler avec lui. On a vu la polémique aux États-Unis, on a vu aussi, par exemple, la polémique en République tchèque. Si on a eu envie de vous inviter, c'est qu'on a envie de savoir, parce qu'on entend beaucoup, dans le bruit ambiant, que finalement, on ne peut pas se passer de Huawei, parce qu'ils ont tellement d'avance. Certains disent qu'ils ont 3 ans d'avance sur le premier concurrent, en l'occurrence vous, dans un monde comme le vôtre, 3 ans d'avance, ça veut dire 2000 ans d'avance. Vous étiez en retard ?
Je crois qu'il y a beaucoup de paroles en l'air actuellement sur ce sujet. Et il faut se remettre sur les faits en tant que tel. Donc nous, on a déjà lancé et déployé la 5G aux États-Unis de façon commerciale. On a également lancé des réseaux opérationnels en Australie, au Japon, même en Suisse, en Europe. Donc il n'y a absolument pas ce retard qui existe aujourd'hui. On serait même plutôt en avant sur certains sujets par rapport aux Chinois, entre autres dans tout ce qui est fonction logicielle. Donc en tout cas, on est aussi un leader dans le domaine de la standardisation mondiale dans ces domaines, et on va continuer à l'être. Et on a aussi des avancées technologiques dans le domaine logiciel par rapport à cela.
Mais donc, est-ce que vous êtes vraiment compétitif? Alors là, vous dites qu'on est compétitif d'un point de vue technique, d'une certaine manière, d'un point de vue coût aussi. Vous le faites au même niveau qu'un Huawei qui est très, très, très agressif aussi sur les prix.
Aujourd'hui, nous avons à peu près les mêmes parts de marché mondial que les Chinois dans le domaine de la radio. C'est le débat dont on parle actuellement. Donc, qui prouve qu'effectivement, nous sommes compétitifs, nous gagnons des parts de marché par rapport à nos concurrents et nous sommes à peu près au même niveau que Huawei. Donc, nous avons effectivement une capacité à faire des prix aussi concurrentiels que Huawei ou que ce soit sur la planète.
Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. On a fait ce qui s'appelle un Europe 1 va plus loin la semaine dernière sur le risque que pourrait représenter Huawei. Et on voyait que chez certains gros opérateurs français, il y a quand même des inquiétudes. Est-ce que vous avez des éléments très concrets qui vous permettent d'assurer que oui, c'est dangereux et que oui, ils pourraient nous écouter?
D'abord, je ne vais pas prendre position sur ce débat au niveau de nos collègues, nos concurrents chinois, puisque c'est un débat essentiellement de nature politique et de nature sécurité nationale. Nous ne sommes pas du tout sur ce sujet. Nous nous contentons de fournir des solutions compétitives, technologiquement avancées pour nos clients opérateurs qui vont être capables de vendre des services.
Mais vous pouvez, j'imagine, glisser à vos clients. Nous, on vous assure, Ericsson, géant européen, géant scandinave, qu'on ne vous écoutera pas.
La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'un acteur comme Ericsson, qui est un acteur européen scandinave, n'a pas du tout une vocation de cette nature-là. Et il n'existe pas de loi en Suède qui nous fasse avancer dans cette direction-là. Maintenant, à chacun de faire prendre ses décisions. Et à la fin, c'est en qui vous avez confiance. La confiance est fondamentale dans ce sujet-là.
Est-ce que finalement, ce n'est pas la meilleure pub qui puisse exister pour vous? Puisque typiquement, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu l'idée de vous inviter ce soir pour parler de la 5G s'il n'y avait pas eu cette polémique.
Alors, il est effectivement une possibilité de dire que c'est une bonne chose pour Ericsson. Donc, on a des avantages à court terme potentiels, mais sur le moyen terme, vous savez, personne ne va gagner dans cette affaire. Une boîte comme Ericsson est fondamentalement ancrée sur l'ouverture, la standardisation mondiale. On a des valeurs qui sont l'innovation, que l'on gagne par la compétitivité. Donc, même si à court terme, oui, peut-être des intérêts, sur le moyen terme, personne ne gagne.
Vous disiez au début de cette interview, Franck Bouettard, je rappelle que vous êtes le PDG d'Ericsson en France, vous disiez, mais d'un point de vue technologique, on est même en avance sur certains points. Comment vous expliquez que c'est une dizaine d'experts qu'on a eu en ligne la semaine dernière, quasiment tous nous ont dit Huawei est totalement incontournable?
Je pense que nos concurrents ont atteint un tel niveau de présence, autant que la nôtre, c'est que s'il fallait un jour bannir les Chinois, ça force nos clients opérateurs à revoir l'ensemble de leur structure de réseau et donc ça a un coût. Donc forcément, toutes ces décisions ont des coûts importants.
Mais il nous disait incontournable d'un point de vue technologique quand même.
Les investissements que l'on fait en R&D dans le domaine de la radio, pour nous, sont d'un montant de 15% de chiffre d'affaires. On fait 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 15%, vous imaginez ce que ça représente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de perception, plus que de la réalité. Et si c'est le cas, pourquoi 30% des opérateurs au monde feraient confiance en Ericsson?
Alors, on va peut-être s'intéresser quand même à la 5G, parce que c'est vrai que depuis le début de cette interview, on a utilisé plusieurs fois cet acronyme. Alors, ceux qui ont des téléphones portables connaissent la 3G, la 4G, la 5G, ça devrait arriver en France d'ici 2-3 ans maintenant, de façon peut-être même un petit peu plus, 4-5 ans de point de vue technique. Concrètement, pour moi, utilisateur, et pour nos auditeurs qui sont en train de gentiment nous écouter ce soir, ça va nous changer quoi dans notre vie de tous les jours?
Alors en fait, il y a trois cas d'usage principaux dans la 5G. Le premier, c'est l'extension de la 4G, comme aujourd'hui, plus de débit, plus de vitesse.
Donc ça veut dire pouvoir charger un film plus rapidement, regarder de la vidéo dans un train, etc.
Et ça veut dire aussi moins de latence, donc des applications nouvelles qui vont apparaître, par exemple la réalité virtuelle que vous allez pouvoir avoir en toute mobilité. Ça, c'est la partie grand public. Et il y a une partie qui est plutôt de nature opérateur, qui vont par exemple pouvoir remplacer la fibre par de l'accès mobile. Mais il y a aussi un pan complet sur la partie entreprise. On va être capable de transformer des entreprises complètes avec la 5G au cœur de ces métiers. L'usine 4.0, les robots automatiquement pilotés, les transports vont être modifiés puisqu'on pourra conduire des véhicules à distance.
Alors vous disiez, on a déjà installé des réseaux similaires à cela aux États-Unis, en Australie, en Suisse, avec Swisscom, je crois, qui est l'orange du pays.
Tout à fait.
Pourquoi nous, on est un petit peu en retard? Parce qu'on avait été pas mal en avance sur 2G, 3G, 4G, on s'est déjà pris un peu les pieds dans le tapis. Et là, 5G, on est vraiment en retard.
Alors d'abord, s'il y a un retard, on entend dire 2-3 ans, s'il y a un retard, c'est pas lié à l'accessibilité par les opérateurs aux technologies. Elles sont là aujourd'hui.
Non, mais au coût que ça représente, il faut investir des milliards d'euros pour tout
remettre
à niveau.
Il y a deux contraintes. Il y a d'abord la contrainte qu'il faut les fréquences. Elles doivent être disponibles. Donc, c'est à quelle vitesse les fréquences vont être libérées et mises à la disposition.
Les fréquences, c'est ce qui permet de faire très simple, mais ce qui permet grosso modo qu'on arrive à téléphoner au bout du bout.
Pas transférer le signal au bout de votre téléphone portable. Elles ne seront pas disponibles en France avant début 2020. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut avant, il n'y aura pas de fréquence, rien ne peut fonctionner. Et ensuite, il faut des investissements lourds dans toutes ces technologies pour que ça puisse également être quelque chose qui a un sens. Et donc, la question, c'est à quel prix ces fréquences vont être disponibles? Et là aussi, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas dans une logique où les fréquences sont une sorte de taxe pour les opérateurs, mais que c'est plutôt un moyen pour eux d'avancer. Et il faut permettre aux opérateurs de garder de moyens d'investissement, d'investir dans la technologie et peut-être moins dans les fréquences.
Un grand merci Franck Bouettard, le PDG d'Ericsson France, d'être passé ce soir par Europe 1. Nous, on se retrouve après-demain, puisque demain soir, à ne pas rater, un match exceptionnel de Ligue des Champions, Lyon face à Barcelone. Ce sera donc à la même heure, donc à mercredi, 22h20.
À mercredi, Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens, avec le visage d'une femme demain matin à la une de Libération, le rabbin Delphine Horviller et ses mots « Ce n'est pas aux Juifs de lutter, mais à tous ». À lire sa réaction face à la multiplication des actes antisémites dont on parlait tout à l'heure dans le journal. Tandis que Laurent Geoffrin intitule son édito, toujours dans Libération, « Antisémitisme, le retour de la peste ». Cette fois, écrit-il, « les habituelles indignations ne suffisent plus ». La nécessité d'un sursaut, écrit pour sa part Laurent Baudin dans le journal L'Alsace, face à la montée de l'antisémitisme et plus globalement de toutes les intolérances, un sursaut républicain s'impose. Un réveil des consciences parce que la France ne serait pas ce qu'elle est sans cet humanisme du siècle des Lumières qui a fait sa grandeur, sa puissance, sa fierté. Et si le déclin français s'expliquait aussi par ce repli sur soi qui s'accompagne d'une montée de l'obscurantisme. Antisémitisme, ce que cache l'unanimité politique, titre pour sa part le journal L'Opinion, qui revient lui aussi sur le rassemblement de demain. La plupart des leaders politiques seront présents à Paris pour dénoncer cet antisémitisme, mais les polémiques sur l'antisionisme ont réveillé de vieilles fractures qui continuent d'empoisonner le débat. Dans les échos, Benoît Georges nous apprend quant à lui que les Français sont prêts à un changement du statut des fonctionnaires. Sondage à l'appui. Les gilets jaunes, écrit-il, n'ont pas transformé le regard que portent les Français sur la réforme de la fonction publique. À 57%, ils se montrent favorables à la remise en cause de ce statut de fonctionnaire. Un niveau identique à celui observé il y a tout juste un an. Certaines mesures sont même particulièrement plébiscitées, comme la mise en place d'un plan de départ volontaire ou la rémunération au mérite. Faut-il en déduire que le projet de loi présenté la semaine prochaine passera comme une lettre à la poste? Impossible de le garantir, d'autant qu'une majorité estime que la qualité du service public se dégrade. Un constat pour le coup fortement exprimé par les Gilets jaunes. Et puis on parle de foot dans le journal de la Haute-Marne avec Christophe Bonnefoy. Après le PSG, parti à l'assaut avec succès de Manchester de Paul Pogba, place à l'OL de Fekir qui reçoit dans son Groupama Stadium demain un quintuple champion d'Europe, celui du dieu Messi, mais sans Fekir pour le coup. coup. Comme l'équipe parisienne, le club de Jean-Michel Aulas devra se passer d'un joueur essentiel pour affronter le monstre barcelonais. Le Parisien Neymar blessé, le Lyonnais Fekir suspendu. Les raisons des absences sont différentes, mais la problématique demeure sensiblement identique. Il faudra peut-être plus compter sur la cohésion du groupe, l'envie de renverser des montagnes et ce petit pourcentage d'incertitude qu'offre le sport pour bousculer, voire renverser le Barça. En l'occurrence, rien n'est impossible. Allez, on verra ça demain dès 20h en direct sur Europe 1. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Très bon début de semaine à vous Sophie.
J'allais vous dire la même chose, c'est formidable. À tout à l'heure.